La Méridienne.
Allez, j'ai été rejoint en studio par Geneviève et Héloïse pour une nouvelle rubrique couleur du nuance du monde.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous les deux. Ça va bien en forme ?
Oui.
Bon, de quoi ou de qui devrais-je dire allez-vous me parler aujourd'hui ?
C'est un grand mystère. On va parler de princesses, parce que c'était Noël il n'y a pas si longtemps. On va se commémorer ce bon moment des vacances. Voilà, c'était Noël. Et alors, qu'est-ce qu'on offre en général aux petites filles pour Noël ?
Des poupées.
Des poupées Barbie, des poupées de princesses, parce que c'est mignon les princesses, les contes de fées, tout ça. Eh ben non, c'est pas mignon du tout. Vous voulez que je vous en parle d'une vraie princesse ?
Une princesse pas mignonne ?
Alors, une princesse très mignonne, mais une vraie princesse, un vrai destin de princesse.
Ok.
Ouais. Elle s'appelle Brunehault. Voilà, je me suis bien entraînée pour prononcer son nom. Comme son nom ne l'indique pas forcément, elle est née en Espagne. Elle était d'origine visigothe.
J'aurais dit allemand, Brunehault, ça m'a évoqué.
Et oui, parce qu'en fait, c'était des peuples qui avaient migré, des peuples barbares, et ils ont gardé cette connotation, cette consonance germanique dans les prénoms, mais c'est très éloigné de sa propre culture qu'elle a reçue pendant son enfance. Alors, elle est née quand ? C'est une bonne question, ça, quand même. Elle est née en 547, donc au sud de l'Espagne. Voilà. Elle est fille de roi et de reine, de la plus haute et la plus noble lignée. Donc ça démarre plutôt pas mal. Elle est donc la fille d'Athanagilde. Vous voyez, c'est plein d'idées de prénoms pour aujourd'hui. Et donc, comme c'est une jeune fille d'une très belle lignée, qu'on décrit comme étant belle, bien élevée, eh bien évidemment, elle va se marier avec le plus beau, le plus ambitieux de tous les princes de son époque, à savoir Sigebert.
C'est un drôle de nom.
Ouais, on les enchaîne.
On les enchaîne, ouais. Je vais essayer d'arrêter là, je vous rassure. Donc Sigebert, du coup, lui offre un mariage des plus beaux de toute cette époque du haut Moyen-Âge. Il règne sur l'Austrasie, donc qui est une partie du royaume des Francs, donc pour faire simple, l'est de la France actuelle. Elle se marie donc à Metz. Donc ce mariage est tellement beau qu'on essaye de se rapprocher le plus possible des mariages impériaux de la Rome antique.
Ok.
Voilà, donc on lui rédige même, attention, j'ai vraiment mis le paquet sur le dico aujourd'hui, un épithalame.
Wow. Joli, hein. Ça veut dire quoi ?
Voilà une bonne question. C'est un chant nuptial qui est composé vraiment spécifiquement pour le couple.
Ouais.
Bon, c'est pas mal quand même, hein, déjà là, comme départ. Ouais, c'est pas mal.
J'imagine que c'est un mariage d'alliance politique.
Et oui.
À l'époque, les princesses, je suis pas sûr qu'elles choisissent souvent avec qui elles se marient.
Mais quelle bonne question. Elles ne choisissent pas avec qui elles se marient. C'est une alliance. Et en plus, à cette époque, pour les Francs, finalement, avec qui on se marie, ben, tu vois, c'est pas tellement important. Là, en l'occurrence, ça l'est, parce qu'elle est d'origine noble. Mais justement, à l'époque, ce qui compte beaucoup, ben là, vous allez vous souvenir des contes de fées, hein, ça se termine toujours comment ?
Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants.
Ouais. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et bien, en fait, c'est ça le plus important pour les Francs à l'époque, c'est avoir beaucoup d'enfants. Et tant qu'on n'a pas d'enfants, et bien finalement, qui que vous soyez, vous n'êtes personne.
Combien d'enfants en moyenne ?
Alors, à l'époque, on dit qu'il faut 4 enfants pour faire un adulte. C'est-à-dire qu'il y a une mortalité infantile très très forte. Donc, il faut au moins un héritier mâle.
Il va y avoir surpopulation.
Ouais, je crois que malheureusement,
à l'époque,
la régulation démographique s'opérait par les maladies.
L'espérance de vie d'un enfant, une fois qu'il avait passé 2-3 ans déjà, on se disait pas mal.
Pas mal, hein. Ouais, il faut même compter presque 10 ans
pour
être vraiment sûr de la viabilité de l'enfant. Bon, enfin bref, là on s'égare un peu. Donc elle se marie, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Elle a un enfant rapidement, donc chouette. Elle, son avenir est assuré. Par contre, c'est pas la même chose pour sa sœur. Sa sœur se marie avec donc le beau-frère, on va voir si vous me suivez,
du mari de Brunehault.
Voilà, donc avec le frère de
Sigebert, je crois il s'appelait.
Ouais, Sigebert, exact.
C'est encore un drôle de nom. Et comment elle s'appelait, la sœur de
de Brunehault?
Elle s'appelle, attention, Galsfint.
Ok.
Galsfint.
Voilà, Galsfint. Et donc cette pauvre Galsfint, eh ben, elle n'a pas du tout d'enfant. Et il se trouve que son mari a une maîtresse, Frénégonde. Et Frénégonde.
Encore un nom bizarre.
Encore un nom bizarre. Frénégonde, elle allait donc qui raille le parquet. Elle voudrait bien devenir la reine.
Ouais. C'est marrant parce que Frénégonde, ça fait plutôt penser à Belge.
Alors on n'est pas loin, hein. C'est un petit peu cette même région. Tu as raison. Et donc Frénégonde, elle va ordonner la mort de Galsoine, donc de la sœur de Brunhild, ou Brunhult, en fonction de la manière dont on l'appelle. Et donc va s'enchaîner une guerre entre les beaux-frères, qui va se traduire par la mort de Sigebert. Et donc c'est Brunhult qui va devenir reine le temps que son fils devienne majeur.
Et comment il s'appelle son fils ?
Eh bien, tu chercheras. Et donc, elle va rester au pouvoir pendant 40 ans. Et alors, c'est là où, attention, accrochez-vous. En fait, elle a une vraie action politique, Brunhult. Elle va réformer l'État, elle va unifier l'État des Francs, ce royaume qui est extrêmement divisé. Elle va mener des actions concrètes pour aider la population. Elle va réformer la justice. Bref, c'est quand même plutôt une bonne reine. Mais vous êtes d'accord, probablement avant aujourd'hui, vous n'aviez jamais entendu son nom.
Non.
Pour une raison simple, c'est que sous la Troisième République, on récupère cette légende et on n'en retient que le côté guerrier. On retient que le côté affaire de bonne femme qui se crêpe le chignon et qui ordonne des guerres entre beaux-frères et qui veulent le malheur des royaumes. Sous-entendu, il ne faut pas laisser le pouvoir aux femmes parce que regardez ce qu'elles en font, elles font la guerre. Ouais. Donc c'est nul.
Bah, si je peux me permettre, la plupart des rois ont fait la même chose.
Bah oui.
C'est vrai.
C'est pas faux.
Oui.
Et ben justement, ça on le dit moins, tu vois. Voilà. Ouais. On insiste plus et on s'est même servi de l'histoire de cette femme pour justifier qu'il ne fallait plus laisser le pouvoir aux femmes. Et donc c'est là qu'on va ressortir même des vieux textes de loi pour dire que les femmes ne peuvent pas hériter du pouvoir royal.
Pendant la Troisième République, ils sont allés chercher une histoire de 1000 ans avant pour
justifier de ne pas donner le droit de vote aux femmes.
Ok, bon.
Pas mal, hein.
Ouais. Et
il manquait pas d'astuces.
Non. Comment elle est morte ? J'imagine qu'elle est morte.
Oui, depuis le temps, oui, c'est sûr. Mais alors, la pauvre, elle est morte dans des conditions absolument atroces. Je reprends ma petite histoire de famille. Donc, Frénégonde meurt. Ses enfants se saisissent de la vengeance de leur mère. Et donc, ils arrêtent Brunhult, qui est alors âgée de 70 ans. C'est une vieille reine.
Très vieille.
Pour l'époque, oui. Et cette vieille reine, eh bien, du coup, elle va être traînée, elle va être attachée à la queue d'un cheval.
À la queue ?
Oui, d'un cheval qui est lancé au galop.
Mais pourquoi elle ne se brise pas la queue du cheval ?
Parce qu'ils étaient très forts en torture à l'époque et qu'ils devaient avoir l'équipement adéquat.
Parce que moi, si on attache quelqu'un à mes cheveux, ils vont s'arracher. Non
ouais, mais t'es pas un cheval. Hein.
Non, au Moyen-Âge, ils étaient très très forts.
Ouais, ils avaient un esprit pervers, plus.
Il n'y avait pas aussi une méthode de torture avec des veines, non ?
Il y en a eu plein.
Plein. Ouais, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Ouais, non, la torture. Vous êtes à table, non, peut-être.
Oui,
on va peut-être s'arrêter là. Hein, on va pas insister plus. Donc, je laisse votre imagination malheureusement faire. Donc, moralité, quand on offre des petites poupées princesses, des contes de fées, tout ça, c'est très bien pour apprendre aux jeunes filles donc à avoir comme objectif d'attendre le prince charmant. Et ensuite, on est très sage et très gentille. Et surtout, on s'occupe pas de vouloir gouverner quoi que ce soit parce que nous, notre rôle, c'est de faire des jolis bouquets de fleurs. Mmh. Voilà, c'est ça que ça sous-entend.
Ouais, les princesses, c'est pas que des petites choses fragiles.
Non.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette rubrique et à très bientôt.
Merci Mathieu,
à bientôt.
Calade, ma radio.
La Méridienne.